justesse, avec vérité, qu'il puisse être conforme à ta parole dans cet enseignement. Ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur pour pouvoir être enseigné. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune. C'est une joie d'être devant vous ce matin. J'ai une question en introduction. On va méditer ce matin les 10 commandements. Et j'ai fait le sondage pendant la semaine pour voir est-ce que les gens connaissent les 10 commandements. Alors on va faire le test ensemble. Qui peut me mentionner le premier des 10 paroles que constituent les 10 commandements? J'entends rien. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est faux. Ça, c'est Exode 6. Non, c'est Deutéronome 6. Les 10 commandements, c'est Exode 20. Donc, c'est vraiment à l'autre côté du Pentateuque. Hein. Mais c'est drôle. C'est souvent l'erreur qu'on fait. Et on l'a fait parce que quand un pharisien interroge Jésus, en particulier, en tout cas dans l'évangile de Marc, il lui demande quel est le plus grand commandement. Et Jésus cite ceci, et il cite aussi Lévitique 18, « Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même ». Donc, c'est effectivement le premier, mais il n'est pas dans les 10 commandements.
Tu n'auras pas d'autre Dieu.
Exactement. Alors, ça dépend des traductions, mais c'est ça, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième. Les images taillées. Oula, mais il y en a qui regardent leur Bible, là. Hein. Ne trichez pas, hein. Troisième. Là, c'est plus dur. Hein. On est moins familier avec celui-ci. Le nom de Dieu, exactement. Tu ne prononceras pas ou tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain ou à la légère. Quatrième. Ouais, tu respecteras le jour du sabbat. Cinquième. Tu honoreras ton père et ta mère. Sixième. Tu ne tueras pas. Pardon ? Septième, l'adultère. Huitième, non, le vol. Neuvième, c'est pas le mensonge, hein, c'est un peu plus précis que ça, le faux témoignage. Et dixième, la convoitise. On se rend compte que on a entendu parler des 10 commandements. C'est quelque chose qui fait partie de la, même on pourrait dire, de la culture ambiante de notre société. On sait que les 10 commandements, bon, franchement, c'est probablement un des textes les plus fondamentaux de la culture occidentale actuelle. Et bizarrement, en fait, on en ignore pas mal le contenu. Là, on est peut-être une centaine dans cette salle et à 100... on arrive à peu près à les citer les 10. Mais si on se posait la question individuellement, un à un, probablement ce serait beaucoup plus difficile. Et on se rend compte que ces 10 commandements sont... Enfin, on connaît leur existence, mais on ne connaît pas forcément leur contenu. On est ici à la Servette dans une série sur dans le livre de l'Exode. On a vu plusieurs choses. Hein. On a vu que Dieu a sauvé un homme pour sauver son peuple. Il a sauvé Moïse au moment de la mort des nouveau-nés en Égypte. Il a sauvé au moment où il était poursuivi par le Pharaon. Puis on a vu que Dieu a rencontré un homme pour rencontrer son peuple. Il a rencontré Moïse dans le désert, dans le buisson ardent. Il s'est présenté à lui. Et puis la dernière fois, la semaine dernière, on a vu que Dieu sauve son peuple. En fait, ce que Dieu a fait avec Moïse, il l'a d'abord sauvé, puis rencontré. Il le fait maintenant avec tout le peuple. Il le sauve et puis il le rencontre. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est donc la dernière fois, on a vu la libération d'Égypte. Puis, il y a eu le passage de la mer. Vous vous souvenez, hein, Dieu a ouvert la mer pour permettre le passage du peuple. Et puis ensuite, il a décimé l'armée du Pharaon dans les flots. Ensuite, il y a eu la manne qui a été donnée, il y a eu de l'eau qui a été donnée dans le désert. Le peuple a marché un certain temps dans le désert et ils sont arrivés au mont Sinaï. Et là, Dieu rencontre son peuple. Je vous je vous suggère de lire Exode 19, où on voit, on va pas le lire maintenant, mais juste amener un extrait tout à l'heure, mais on voit que Dieu rencontre son peuple. Et c'est bon de se souvenir, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, tous autour de la montagne du Sinaï. Il y a de la fumée, il y a des éclairs, la montagne tremble, le peuple est en train d'avoir peur, ils sont dans une crainte immense, parce que l'Éternel vient en fait à leur rencontre. Il les a appelés là pour les rencontrer. Et puis Dieu commence à parler, comme le son d'une trompette, tellement fort qu'après avoir donné les 10 commandements, le peuple dit « Arrête !» Moïse, toi tu vas aller vers Dieu et toi tu vas écouter Dieu. Nous, on ne peut pas en entendre plus que ça. Mais la première chose que Dieu dit au peuple, ce sont les 10 commandements. Et on va passer quelques minutes à méditer ces 10 commandements ensemble ce matin. Exprès, je ne les ai pas affichés. D'habitude, on affiche le texte biblique, mais ce matin, je ne les ai pas affichés. Parce que justement, je crois qu'on a du mal à s'en souvenir, et j'aimerais qu'on fasse cet exercice ensemble, et je vous encourage à prendre vos Bibles et à chercher dans vos Bibles, ou alors sur votre smartphone, ça marche aussi, le texte est le même, il n'y a pas de souci. Chercher ce texte, qu'on puisse vraiment le lire ensemble. C'est un texte fondamental, c'est un texte important. Et je vais lire, donc c'est dans Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, Exode, hein, au chapitre 20. Et je vais lire les versets 1 à 17. Vous vous souvenez, le mont Sinaï tremble. Il y a de la fumée, il y a des éclairs, il y a le son d'une trompette. Et là, je commence la lecture. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vous l'annonce tout de suite, il y a 12 points dans cette prédication. Une introduction, et puis ensuite on va passer sur les 10 commandements, et puis brièvement quelques applications à la fin. Ça va être une prédication un peu speed, parce qu'on ne va pas avoir le temps de creuser à fond chacun des 10 commandements. Et en fait, j'aimerais vous demander pardon ce matin. Je me suis rendu compte, cette semaine, j'ai passé toute la semaine à méditer ces 10 commandements et je me suis rendu compte à quel point c'est un texte fondamental pour nous autres chrétiens, à quel point c'est un texte qu'on devrait connaître, qu'on devrait apprendre, et à quel point, ça fait 4 ans que je suis pasteur dans cette église, et en fait, on ne les a jamais étudiés ensemble. Et j'aimerais vraiment pendant les prochains mois, qu'on puisse prendre le temps de les méditer plus en profondeur, un à un, chacun de ces 10 commandements. Mais ce matin, on va en avoir une vue d'ensemble. Et on va passer là-dessus assez rapidement. Avant de les attaquer, quelques remarques générales sur ces 10 commandements. Première chose, on voit que Dieu a un projet. Dieu a libéré son peuple d'Égypte, et puis là, il leur donne les 10 commandements. En fait, le peuple de Dieu avait vécu sous administration égyptienne, sous la loi égyptienne jusque-là, et puis tout à coup, le peuple est libre. Mais Dieu leur donne une loi. Il leur donne un cadre pour bien vivre cette liberté. Et Dieu a un projet pour eux. Et j'aimerais juste vous lire quelques versets au chapitre 19 qui nous montrent un petit peu, voici le projet de Dieu pour son peuple. C'est chapitre 19 à partir du verset, la moitié du verset 3 jusqu'au verset 6. Voici ce que tu diras, donc c'est Dieu qui parle à Moïse. Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Dieu est le Dieu de tous les peuples. Bien sûr, d'une manière particulière, Israël, à ce moment-là, est devenu le peuple de Dieu, mais Dieu le dit, hein, il est le Dieu de toute la terre. Dieu est le Dieu de tous les peuples. Mais Dieu a un projet pour Israël. Il veut faire d'eux une nation sainte, un peuple de prêtres. Il veut que ce soit eux qui apportent le message de Dieu au monde, entre autres, en vivant les 10 commandements, en vivant ce qui plaît à Dieu. Donc Dieu a un projet. Deuxième remarque, c'est que la loi vient après la libération. Vous avez remarqué, Dieu libère son peuple d'Égypte, après quoi il donne la loi. Dieu ne dit pas, ah ben, je vais vous donner la loi pendant que vous êtes en Égypte, et si vous respectez bien la loi, alors peut-être qu'après ça, je vais vous libérer d'Égypte. Et il y a un parallèle flagrant avec nous aujourd'hui. On est mal à l'aise avec la loi, en fait, je crois, nous les chrétiens, parfois. On ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'en fait, on vit sous la grâce. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette loi? Comment est-ce qu'on doit gérer ça? Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment un parallèle. En tant que chrétien, nous sommes libérés du péché. Lorsque tu places ta confiance en Jésus-Christ, lorsque tu considères Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es libéré du péché. Tu reçois sa justice. Il paye pour ton péché. Et puis après, on vit par la grâce dans la vie chrétienne. Mais Dieu nous donne sa loi pour nous montrer comment vivre une vie qui lui plaît, une vie qui l'honore, une vie conforme à sa volonté et en fait, ultimement, une vie heureuse. Donc on voit qu'il y a cette logique. Libération, puis loi. Troisième remarque, la loi c'est une bonne nouvelle. Et je crois que là aussi, on a un peu cette tendance, la même tendance que les pharisiens en fait au premier siècle. Ils avaient cette tendance à vouloir voir, mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec la loi? Ils essayaient de comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de la loi. Mais je crois qu'il faut qu'on comprenne que la loi, au moment où elle est donnée, c'est une bonne nouvelle. Dans un monde qui pourrait potentiellement être chaotique, Dieu donne sa loi. Dieu donne une loi qui est bonne. Vous savez pourquoi Dieu donne une loi qui est bonne? Je crois qu'il y a trois raisons à cela. Premièrement, Dieu est bon. La Bible nous le dit. Donc il nous donne nécessairement une loi bonne. Deuxièmement, Dieu est notre créateur. Ben, ça ne suffit pas que Dieu soit bon, il faut aussi qu'il nous connaisse bien. Et en tant que notre créateur, il est particulièrement bien placé pour nous connaître parfaitement et nous donner une loi qui soit bonne pour nous. Et troisièmement, parce que Dieu nous aime. Dieu ne nous donne pas une loi pour nous cadrer, pour nous enfermer, pour nous limiter. Il nous donne une loi pour qu'on puisse s'épanouir, une loi qui est bonne. Et en fait, cette loi, les 10 commandements, mais disons de manière générale, la loi que Dieu nous donne, que Dieu donne à son peuple, c'est une loi de liberté. C'est une loi qui est bonne, c'est une loi qui nous montre à la fois qui est Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu déteste, par exemple, les faux témoignages ? Parce qu'il est la vérité. Donc la loi, d'une certaine façon, montre qui est Dieu. Et, de l'autre, et en même temps, la loi nous montre comment vivre une vie d'être humain épanoui. Quatrième remarque, le décalogue, on appelle parfois les 10 commandements le décalogue, en fait ça signifie les 10 paroles, parce que c'est comme ça que la Bible en parle, a une place de choix dans la Bible. Vous avez remarqué, toute cette scène, hein, le Dieu qui s'adresse directement à son peuple, la montagne qui tremble, enfin vraiment, c'était prévu pour marquer l'esprit du peuple. Et puis, cette loi, Dieu lui-même l'inscrit sur des tables de pierre. Il l'inscrit et c'est ce qui va se trouver plus tard dans le coffre, hein, l'arche de l'Alliance. Donc Dieu montre vraiment que son intention, c'est que cette loi, en particulier ces 10 commandements, soient centraux dans la vie de son peuple. Jésus parle énormément des 10 commandements. Et Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. On va ensuite passer par les différents commandements et on se rendra compte que les commandements ont un petit peu changé de visage suite à la venue de Christ. Mais ils restent, ils demeurent bons pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Dernière remarque, ces commandements, ils nous montrent un petit peu des cas extrêmes. Et on va en parler. Ils nous montrent, par exemple, tu ne commettras pas de meurtre. Ça, c'est le cas extrême. Mais on se rend compte dans ce que Jésus enseigne et dans d'autres passages de loi que des choses moins graves étaient aussi punies. Mais les 10 commandements sont là pour montrer, on va dire, les cas les plus graves. Mais il ne faut pas qu'on se dise, oui, mais moi, si je n'ai pas commis de meurtre, alors ce n'est pas grave. Il y a bien d'autres cas qui sont mentionnés par Jésus, qui sont mentionnés dans d'autres passages de la loi, qui nous montrent que la violence, sans forcément aller jusqu'au meurtre, est quelque chose de grave. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que la loi est là pour nous enfermer ? Est-ce que la loi est là pour nous limiter ? Ou est-ce que la loi est belle ? Est-ce que la loi est bonne ? Est-ce qu'il s'agit d'une loi de liberté ? Et on va maintenant passer rapidement au travers de ces 10 commandements pour qu'on en ait une vision d'ensemble. Et à chaque fois, je vais essayer de montrer en quoi est-ce que c'est quelque chose de glorieux ? En quoi est-ce que c'est quelque chose de bon ? En quoi est-ce qu'on a en fait tout intérêt à vivre joyeusement cette loi ? Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu se présente à son peuple. La première chose qu'il leur dit, le premier commandement qu'il leur donne, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Alors, c'était le peuple de Dieu, probablement, savait peu de choses sur Dieu. Ils avaient peut-être entendu parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais c'était 400 ans en arrière. Le peuple était plein de la culture égyptienne, sans doute, de l'idolâtrie, du polythéisme égyptien. Et puis Dieu, tout de suite, dit, non, je suis le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Et il leur dit, tu ne feras pas d'idole, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Qu'est-ce que c'est une idole ? Aujourd'hui, on va dire, mais bon, nous, aujourd'hui, on n'est plus trop dans des cultures polythéistes, on considère facilement qu'il y a un seul Dieu. Il y a des gens qui sont polythéistes encore aujourd'hui, je ne dis pas le contraire, mais disons, la pensée monothéiste est quand même assez populaire, on pourrait dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que c'est une idole ? Une idole, c'est quelque chose qui prend toute la place dans notre cœur. C'est quelque chose qui accapare toutes nos pensées. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu, en fait, dans notre cœur. Et en fait, c'est une bonne nouvelle que Dieu nous dise « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ça signifie qu'on peut arrêter de chercher. Il est le vrai Dieu, celui qui peut prendre cette place, celui qui peut nous combler parfaitement, celui auprès duquel on peut s'abandonner complètement, celui dans lequel on peut trouver notre satisfaction totale. On peut arrêter de se mentir à nous-mêmes en se disant « Ah, je vais prendre ceci ou cela pour essayer de me combler. » Et on peut lui faire confiance à lui seul. Ce premier commandement, il est rassurant. Il est fondamentalement une bonne nouvelle. Et ce premier commandement, en quelque sorte, il introduit ou il irradie sur les 9 autres, sur toute la loi en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas commettre de meurtre? Parce que c'est Dieu qui donne la vie, parce que la vie humaine comprend l'image de Dieu. Et en fait, ultimement, un meurtre, c'est détruire l'image de Dieu. Et du coup, c'est porter atteinte à ce grand Dieu. C'est mettre un autre Dieu devant sa face. Enfin, c'est juste un exemple pour vous montrer que tous les 9 autres commandements dépendent clairement de ce premier. Deuxième commandement, les images taillées. Ça, c'est un commandement qui a trait à l'adoration ou au culte, en quelque sorte. Ce que Dieu dit ici, c'est que nous devons adorer Dieu, nous devons rendre un culte à Dieu dans les termes qui lui plaisent. Vous savez ce qui se passe? Donc Dieu donne les 10 commandements, après il va donner plusieurs, à peu près une dizaine de chapitres de loi à Moïse. Puis après 40 jours, Moïse redescend du mont Sinaï. Et le peuple a fait un veau d'or. Ils ont fait une image taillée. Ils n'ont pas encore reçu la loi, qu'ils ont déjà désobéi au deuxième commandement. Mais en fait, le peuple pensait bien faire. Ils ont voulu créer un objet qui soutiendrait l'adoration de Dieu. Quel est le problème? C'est que Dieu n'avait pas dit ça. C'est que Dieu n'avait pas voulu ça. En fait, ce qu'on voit derrière ce deuxième commandement, c'est que nous devons adorer Dieu de la manière dont il nous demande de l'adorer. On ne peut pas dire « Ah, mais moi, j'ai l'impression qu'on devrait adorer Dieu de telle ou de telle manière. » Je ne sais pas, se dire « On devrait adorer Dieu en allant marcher à tel endroit ou en grimpant en haut d'un arbre ou en nageant dans telle rivière. » Non, on doit adorer Dieu de la manière dont il nous commande de l'adorer. C'est lui qui nous donne une trame pour l'adoration. Et je crois que ce deuxième commandement, il nous pousse à réfléchir et à analyser notre vision de la piété, notre vision de l'adoration. Comment est-ce qu'on fait pour vivre une vie de piété qui plaît à Dieu? Ben en fait, on lit sa parole et on voit comment, dans sa parole, Dieu nous invite à vivre cette relation avec lui. Comment est-ce qu'on analyse un culte communautaire? Eh bien, on regarde dans sa parole et on regarde si ce qui est vécu est conforme à ce que Dieu avait voulu. Comment est-ce qu'on analyse une prédication? On regarde dans sa parole et on en déduit pour savoir si cette prédication est une bonne prédication. Comment est-ce qu'on analyse un chant? On regarde dans sa parole et on voit si ce chant est conforme à ce que Dieu avait établi. Ce deuxième commandement, il a trait à l'adoration. Et il nous dit, on doit adorer Dieu dans les termes que Dieu a voulu. Troisième commandement, le nom. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu à la légère. Ça, c'est un commandement qui a trait à l'honneur de Dieu. Et parfois, ça nous dépasse un petit peu cette question-là, nous, aujourd'hui. On se dit, mais le nom, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, le nom, c'est bien plus qu'un mot. Le nom, ça, derrière le nom, il y a la personne. Si je prononce un nom, derrière ce nom, il y a la personne. Utiliser le nom de Dieu à la légère, c'est en fait négliger, voire mépriser Dieu. C'est ce que la Bible appelle un blasphème. Et c'est quelque chose qui était puni sévèrement dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que j'utilise le nom de Dieu ou est-ce que je pense même à la personne de Dieu avec révérence, avec crainte, avec respect? Moi, ça me fait penser, par exemple, à certaines prières que moi-même, je peux prononcer parfois. Est-ce que dans mes prières, j'utilise le nom de Dieu à la légère? Parfois, vous savez, on a tendance à utiliser le mot « Seigneur » dans nos prières comme des virgules. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Des petites pauses. Mais en fait, le mot « Seigneur » fait référence au créateur de l'univers, à celui qui maîtrise nos vies, à celui qui nous a sauvés. On ne peut pas utiliser ce nom à la légère. Mais il faut qu'on aille plus loin. Hein. Ce n'est pas juste dans l'emploi du mot, c'est dans la manière dont on pense à Dieu. Vous savez, je crois qu'on peut vraiment faire de l'humour sur les chrétiens. J'ai aucun problème avec ça. On peut se moquer de certaines choses qu'on fait, et ça peut même être marrant. J'ai aucun problème avec ça. Mais je crois qu'on doit être vraiment attentif à la personne de Dieu. On doit le traiter avec un profond respect. On doit lui rendre l'honneur qui lui est dû. Et ce commandement nous rappelle cela. Ce commandement, il nous rappelle qu'on est des ambassadeurs. On est des ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Alors, est-ce que un ambassadeur, il va toujours avoir tendance à honorer le pays qu'il représente, n'est-ce pas ? Il ne va jamais se moquer du gouvernement ou des institutions du pays qu'il représente. De la même manière, nous, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous devons communiquer cet honneur, ce respect, cette crainte de Dieu autour de nous. Quatrième commandement, le sabbat. Ça, c'est un commandement qui a trait à la confiance. On est un peu mal à l'aise avec le sabbat, parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire. En fait, on ne le respecte pas vraiment, pour dire les choses franchement aujourd'hui. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on en fasse ? Quelques pensées par rapport au sabbat. Je pense qu'en fait, on est mal à l'aise parce qu'on réfléchit de nouveau un petit peu comme les pharisiens. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de gratter un petit peu quelque chose ? Ou est-ce qu'on ne peut pas établir des règles un peu plus précises sur l'utilisation du sabbat ? On est un petit peu mal à l'aise aussi parce qu'il faut l'avouer, hein, Jésus nous déstabilise. Il nous dit qu'on a le droit de faire du bien le jour du sabbat. Il nous dit que ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Et du coup, on se demande un petit peu, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Mais je vous propose de changer de regard sur ce commandement, mais se dire, mais c'est tellement génial de réaliser que Dieu a mis en place un jour particulier pour l'adoration. Un jour où on peut s'arrêter dans nos vies à 100 à l'heure et prendre le temps de vivre la communion les uns avec les autres, l'adoration de Dieu les uns avec les autres. Un temps spécial qui, en plus, est relativement honoré dans notre société. Ce n'est pas le cas, et on se rend compte que c'est de moins en moins le cas, mais quand même, encore aujourd'hui, pas mal de corps de métier s'arrêtent de travailler le dimanche. C'est génial, et moi, pour moi, ce serait un petit peu un rêve de se dire, voilà, le dimanche, on se lève tôt le matin, on prend un petit déjeuner en famille, on vient à l'église, avec cette disposition, on se dit, mais on va vivre ce temps d'adoration les uns avec les autres. Je crois qu'on doit vraiment faire du dimanche le jour phare de notre semaine. Si on dit que Dieu est tout pour moi, on ne peut pas juste lui laisser 2 minutes comme ça dans la journée et faire une petite prière avant de manger. Je crois qu'il faut qu'il capte notre attention. Et je crois qu'un jour sur 7, ce n'est pas de trop. Alors, il ne faut pas le voir d'une manière pénale, en se disant, aïe, 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 j'ai été faire le plein d'essence de ma voiture le dimanche, c'est terrible. Il ne s'agit pas de ça. C'est plutôt une attention du cœur. Se dire, mais voilà, quelle joie on a d'aller se souvenir de Jésus-Christ ressuscité, d'adorer notre Dieu les uns avec les autres. Et puis, c'est un commandement qui a trait à la confiance. Parce que, il faut se dire, hein, dans les cultures de l'époque, il n'y avait pas de jour de congé comme ça, de jour de congé hebdomadaire régulier. Et en fait, c'est une manière de dire à Dieu, ben, écoute, j'arrête de travailler, j'arrête ma course pour t'adorer, et je te fais confiance que tu vas pourvoir à ce qui pourrait manquer de cette journée non travaillée. Je crois que vraiment, c'est une manière de mettre notre confiance à l'épreuve, d'éduquer notre volonté pour que nous puissions faire confiance en Dieu. Cinquième commandement, honorer les parents. Ça, c'est un commandement qui a trait à l'autorité. J'ai dit, à chaque fois, c'était le cas le plus extrême qui était donné dans les commandements. Et je crois que les parents, c'est probablement l'autorité la plus fondamentale que Dieu a donnée. Dieu a institué plusieurs sources d'autorité. L'État, les parents dans la famille, dans l'Église aussi, il instaure des autorités. Et je crois que ici, Dieu nous dit d'honorer les autorités, en particulier les parents, mais de manière générale, les autorités. C'est quoi la limite de cela ? C'est dans Actes 5, verset 29 que ça nous est donné. C'est qu'on doit faire la volonté de Dieu et non celle des hommes. Ça, c'est la limite. Si un jour, une des autorités, que ce soit les parents, l'État ou les responsables d'église, viennent à outrepasser, à décréter quelque chose qui serait contraire à ce que Dieu veut, alors on doit accorder la priorité à Dieu. Et on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais de manière générale, on doit se soumettre aux autorités parce que les autorités sont instituées, voulues par Dieu. Et en fait, il y a une promesse liée à ce commandement, tu as vu. Je vous le relis. « Afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » En fait, c'est une promesse d'harmonie. C'est une promesse que, en vivant cela, en honorant les autorités, nous allons vivre cette harmonie. Dieu instaure des sources d'autorité pour permettre aux familles, aux sociétés, aux églises de s'épanouir et de grandir en harmonie. Et en honorant ces autorités, Dieu nous promet cette harmonie. Sixième commandement, le meurtre. Ça, c'est un commandement qui a trait à la vie, à la valeur de la vie. On pourrait mentionner la loi du talion, par exemple, qui dit que œil pour œil, dent pour dent. Et plusieurs sont choqués de ça. Mais en fait, ce que Dieu est en train d'instaurer, c'est un principe régulateur. Il est en train de dire, si quelqu'un t'a arraché un œil, tu n'as pas le droit de le tuer. Tu as le droit de prendre son œil. Si quelqu'un t'a arraché une dent, tu n'as pas le droit de le tuer ou de tuer sa famille. Tu as le droit de lui arracher une dent. Dans le sens, Dieu est en train de montrer que la vie est précieuse. On ne peut pas se venger jusqu'à tuer quelqu'un. Dieu est en train de dire, ça, ce n'est pas possible. Pourtant, Dieu instaure la peine de mort dans l'Ancien Testament. Pourquoi justement à cause du fait que la vie est précieuse? Puisque la vie est précieuse, Dieu dit, si quelqu'un a pris la vie, ou si quelqu'un a endommagé de manière extrêmement grave la vie humaine, on prend sa vie. C'est parce que la vie est précieuse que la peine de mort était possible dans l'Ancien Testament. Je ne suis pas en train de militer en faveur de la peine de mort, je suis en train de faire un constat de la valeur de la vie aux yeux de Dieu. Et beaucoup de notions, beaucoup de choses de notre quotidien dépendent de ce commandement. Si la vie est précieuse, si toutes les vies sont précieuses devant Dieu, ça signifie un certain nombre de choses. Ça signifie par exemple que le racisme est intolérable. On ne peut pas être raciste parce que toutes les vies contiennent l'image de Dieu. Quel que soit le peuple auquel on appartient, on n'a pas le droit de mépriser les personnes de notre propre peuple ou les personnes d'autres peuples. C'est impossible parce que la vie est précieuse. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas mépriser des personnes handicapées. Et on peut dire, bon, aujourd'hui, on ne méprise pas les personnes handicapées. Mais il n'y a pas si longtemps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on mettait à mort les personnes handicapées. On ne peut pas mépriser les personnes handicapées, peu importe le degré de handicap, parce qu'elles contiennent l'image de Dieu. Et à cause de cela, la vie, leur vie, est précieuse. C'est aussi pour ça que on se bat contre l'avortement. Parce que nous croyons que la vie, même la vie en devenir, est précieuse. Et en fait, il s'agit là d'un meurtre. C'est pour ça qu'on se bat contre l'euthanasie, parce que la vie est précieuse. Je ne parle pas de l'acharnement thérapeutique ici. Je parle du fait de mettre fin à une vie autonome, à une vie qui est encore possible naturellement. C'est pour ça qu'on se bat contre l'euthanasie, parce que la vie est précieuse. Même la vie de quelqu'un qui souffre, même la vie de quelqu'un qui est peut-être très âgé, est précieuse. C'est pour ça aussi qu'on croit que le suicide est un meurtre. S'enlever la vie à soi-même est un meurtre. C'est pas un meurtre qui nous fait aller tout droit en enfer, comme certains le pensent, pas du tout. C'est un péché comme un autre péché, et c'est un péché qui peut être couvert par la grâce, bien sûr. Mais malgré tout, c'est un meurtre. On attente à la vie. Et on n'a même pas le droit, on n'a pas de droit sur sa propre vie, parce que notre vie contient en fait l'image de Dieu. Et sauter la vie, c'est en fait porter atteinte à cette image de Dieu. Et Jésus va plus loin. Jésus nous dit que ce n'est pas juste le fait de tuer quelqu'un qui est une désobéissance à ce commandement. C'est déjà le fait de se mettre en colère contre quelqu'un qui est une désobéissance à ce commandement. Septième, l'adultère. Il y aurait beaucoup à dire sur ce commandement. C'est un commandement qui a trait au couple. Une des entités fondamentales que Dieu a voulu et qu'il a instauré dans Genèse 2, c'est le couple. Un homme, une femme. Quel est le lieu pour la vie de couple? Quelle est la règle pour la vie de couple? Elle est simple. C'est un seul homme et une seule femme dans un seul cadre, le cadre du mariage. Ça, c'est le lieu pour la vie de couple. En particulier, c'est le lieu pour les relations sexuelles. Et c'est quelque chose de bon. Dieu a voulu cela et c'était bon. Et Jésus va aller encore plus loin. Il va dire que même le fait de convoiter une femme dans son cœur, c'est déjà transgresser le septième commandement. Ce commandement, il condamne beaucoup de choses. Il condamne la pornographie. Il condamne des relations sexuelles avant le mariage. Il condamne l'adultère au sens classique du terme. Il condamne l'homosexualité et encore toutes les autres formes de pratiques sexuelles qui peuvent exister. Ce commandement, il condamne, et j'aimerais pouvoir passer plus de temps à expliquer cela, mais je n'ai pas le temps ce matin, mais il condamne de manière générale le divorce. Bien sûr, la Bible prévoit des clauses d'exception, mais disons, de manière générale, ce commandement-là condamne le divorce. Et la Bible nous dit que le divorce n'est pas une option dans la pensée de Dieu. Comme j'ai dit, il y a des clauses d'exception dans la Bible. Si vous êtes vous-même confronté à un problème tel que celui-là, on peut en parler volontiers, mais je veux quand même le mentionner ici. Mais en même temps, ce commandement, il est beau. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, l'humanité entière décidait d'un commun accord d'obéir au septième commandement? Ce serait génial. Après peut-être 3 ou 4 générations, il n'y aurait plus de maladies sexuellement transmissibles. Puisqu'il n'y a plus de vecteurs de transmission, ce serait terminé. Il n'y aurait plus de prostitution. Il n'y aurait plus de filles-mères. Il n'y aurait plus de viols. Il n'y aurait plus de harcèlement sexuel. Il n'y aurait plus d'abus sexuels sur des enfants. Il n'y aurait plus de pédophilie. Les orphelinats se videraient en bonne partie. Bien sûr, il y aurait encore des orphelins de parents décédés. Mais il n'y aurait plus d'enfants abandonnés, puisque les enfants naîtraient dans des cadres familiaux stables. Il n'y aurait plus, ou en tout cas beaucoup moins, de couples brisés. Il n'y aurait plus de traite d'êtres humains. En fait, le monde serait bon. Et on ne peut pas accuser la loi de Dieu d'être trop dure. La loi de Dieu, elle veut juste nous faire vivre une vie qui soit bonne. Dieu a créé le couple comme quelque chose de merveilleux et il donne sa loi pour protéger cela. Le 8e commandement, le vol, c'est un commandement qui a trait à la notion de propriété. Et parfois, on peut avoir l'impression que la propriété est quelque chose de mauvais. Mais ce commandement nous montre que non, la propriété est quelque chose qui est voulu par Dieu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est encadré par Dieu dans sa loi. Là aussi, vous imaginez si demain, toute l'humanité décidait d'obéir au 8e commandement. Ce serait génial. Il n'y aurait plus de serrures. Il n'y aurait plus de système de sécurité sur Internet. Il n'y aurait plus de surveillance aux examens. Il n'y aurait plus de pointeuse au travail parce qu'on ne serait plus tenté de voler quelques minutes à son patron et de partir plus tôt. Il n'y aurait plus de code, plus de mots de passe. Il n'y aurait plus d'arnaque. Le monde serait tellement plus simple si tout le monde décidait d'obéir à ce huitième commandement, n'est-ce pas ? Dieu ne veut pas nous enfermer, mais au contraire, il veut nous libérer. Neuvième commandement, le faux témoignage. Alors, ce commandement, il nous parle du faux témoignage dans un cadre vraiment un peu de tribunal. On n'a pas le droit, dans un lieu un peu officiel comme ça, de rendre un faux témoignage. Ça, c'est interdit. Mais en fait, comme j'ai dit, les 10 commandements, ils nous présentent un peu des cas extrêmes. Mais en fait, le mensonge, d'une manière générale, est condamné par la Bible. Pourquoi ? C'est un commandement qui a trait à la notion de vérité. Dieu est la vérité. Il nous le dit, hein, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus nous dit ça. Alors, si Dieu est la vérité, nous devons aussi, nous, vivre dans la vérité. Finalement, le 10e commandement, la convoitise. Ça, c'est un commandement qui a trait au cœur. Et c'est intéressant, on a retrouvé pas mal de textes de loi, de la Haute Antiquité, qui ressemblent par certains aspects au texte de Genèse 20. Mais on n'a retrouvé aucun texte de loi à ce jour qui mentionne la convoitise. S'il n'y avait pas le 10e commandement, il manquerait vraiment quelque chose à ce que Dieu a voulu. En fait, si on n'avait que les 9 premiers commandements, on pourrait tenter de se dire, bon, c'est essentiellement des actes. On pourrait avoir une vision très superficielle de la vie dans le peuple de Dieu. On pourrait se dire, ben voilà, je vais faire ceci, faire cela, faire cela. D'ailleurs, c'était la réaction du jeune homme riche. Il a fait les choses qui plaisent à Dieu. Mais ce 10e commandement va plus profond. Il nous montre que déjà dans nos cœurs, déjà à la racine de nos pensées, nous devons obéir à Dieu. Ce dernier commandement, il a aussi attrait au contentement. On doit trouver notre satisfaction, être heureux dans ce que Dieu nous donne, et ne pas convoiter plus. Vous savez, on dit que l'herbe, elle est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Et je crois que c'est tellement vrai pour nous aussi. On a toujours envie de quelque chose de plus, de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Et ici, la loi condamne cela. On se rend compte que Dieu se soucie pas seulement de notre comportement, mais qu'il se soucie de nos cœurs par ce 10e commandement. Voilà, on arrive au terme de ces 10 commandements. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que ces 10 commandements, ils sont bons. Ces 10 commandements, ils donnent envie. Ces 10 commandements, ils nous sont donnés pas pour gagner notre salut, mais parce que Dieu nous a tout donné. Franchement, on a un Dieu qui est tellement bon, il a tout fait pour nous, il nous a tout donné par grâce. Et il a allé jusqu'à nous donner une loi qui nous permette de nous épanouir vraiment. Alors vivons-la. Vivons-la au quotidien. J'aimerais vous lire encore un petit passage dans Deutéronome 5. Il faut juste que je le trouve dans ma Bible. Une petite seconde. Le début de Deutéronome 5. En fait, quand Moïse redescend de la montagne, il brise les tables sur lesquelles étaient inscrits les commandements. Et parce qu'il est fâché, parce qu'ils ont construit le veau d'or, du coup il les brise. Et puis dans Deutéronome, Dieu va redonner des tables de pierre de nouveau. Et c'est donc dans Deutéronome 5 que ça se passe. Mais je vous lis juste l'introduction à ce passage. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit: « Écoute, Israël, les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. » Ça ne suffit pas de connaître les commandements. Il faut les vivre. Il faut les mettre en pratique. Et j'aimerais juste vous laisser quelques applications pour terminer. J'en ai 4. Première application, une méditation, un sujet de méditation pour cette semaine. Essayons de nous souvenir de cette logique, libération et loi. Il ne s'agit pas d'obéir au commandement pour mériter quelque chose, mais parce que Dieu nous a tant aimés et parce que Dieu nous montre ce qui lui plaît, nous désirons vivre cela. Essayons de réfléchir à cela. C'est une logique qui est un petit peu contre-culturelle, Parce qu'on est dans une logique du mérite dans notre culture. Et je pense que l'humanité a une, globalement une logique du mérite. Ici, c'est l'opposé. C'est un une obéissance qui n'est pas basée sur le mérite, mais sur l'amour. C'est parce que Dieu nous a fait grâce que nous voulons lui obéir. Deuxième sujet de méditation pour cette semaine. Essayons de comprendre la bonté de la loi. Je l'ai fait pour quelques-uns des commandements. Je me suis posé cette question, hein, comment serait le monde si tout le monde obéissait à ce commandement? Mais ça vaudrait le coup de prendre quelques minutes pour passer les 10 en revue. Peut-être ce soir, autour de votre souper avec votre famille ou avec vos amis, prenez le temps de vous dire, mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde obéissait au 3e commandement ou au 6e commandement? Et vous verrez qu'on peut passer à travers les 10 et se rendre compte que le monde serait tellement meilleur si tout le monde obéissait à ses commandements. Et avec ça, on a cette conviction que les commandements sont bons. Ils ne sont pas là pour nous entraver, mais ils sont bons. La troisième application que j'aimerais vous laisser, c'est ce qui nous est dit ici hein, dans Deutéronome 5.1. Apprenez-les. Je crois que ça, c'est tellement fondamental, c'est tellement important qu'on apprenne ces 10 commandements. Je vous dis pas nécessairement d'apprendre par cœur les 17 versets qui composent les 10 commandements, mais plutôt de comprendre leur essence. Qu'est-ce qu'ils signifient vraiment? Si on devait apprendre la constitution suisse, ça prendrait longtemps et ce serait difficile. Mais Dieu a simplifié les choses, il nous a donné beaucoup de lois, mais en particulier 10 commandements. C'est facile à s'en souvenir. N'importe qui peut se souvenir de cela. Et je crois que c'est important qu'on puisse s'imprégner jusqu'à les connaître par cœur. Pas forcément dans les mots, mais dans les idées. Et puis la dernière application que j'aimerais vous laisser, c'est, j'ai lu cette semaine pour préparer cette prédication un petit livre et j'aimerais vous le conseiller. Un petit livre, ça s'appelle « Les 10 commandements ». C'est pas très original, mais c'est un livre qui donne vraiment une vision pleine de grâce, une vision glorieuse des 10 commandements. Et si vous avez à cœur d'aller plus loin dans la réflexion et dans la méditation de ces 10 commandements, j'aimerais vous encourager à acheter ce livre. Il est disponible à la Maison de la Bible au centre-ville de Genève et à le lire. C'est 200 pages, ça se lit en quelques heures, c'est vraiment rapide et c'est motivant, c'est encourageant, ça donne une vision tellement belle des 10 commandements. J'aimerais terminer en revenant à notre titre. Dieu rencontre son peuple. Dieu n'est pas là juste en train de donner une base légale, mais en fait, on est là au moment où Dieu rencontre son peuple. Dieu nous révèle qui il est, il nous révèle ce qui lui plaît, il nous révèle ce qu'il attend de nous au travers des 10 commandements. Et je vais terminer par une prière. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ces 10 commandements, on veut te remercier pour la lumière de ces 10 commandements. Merci parce que ces 10 commandements, ils sont bons, ils sont glorieux, ils sont lumineux. Et merci parce qu'on se rend compte que ils ne sont pas donnés par un Dieu qui veut nous entraver, mais par un Dieu qui nous aime. Seigneur, j'aimerais te demander de m'aider, de nous aider à méditer, à nous souvenir, à vivre, à appliquer ces 10 commandements. Seigneur, tu vois tous les lieux où on n'est pas apte à y obéir et on reconnaît qu'on est incapable d'y obéir. Merci parce que Christ nous a pardonné, nous a libérés de nos péchés, de notre désobéissance. Mais merci quand même parce que nous savons ce qui est bon par cette loi. Nous savons quelles sont les choses qui t'honorent, qui te plaisent. Alors aide-nous à le vivre, aide-nous à désirer te plaire et te rendre gloire. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.